Chapitre 7. 224 euros, s'il vous plaît. Ils tendent leur carte bleue en même temps. Émile repousse celle de Johan. Je paie pour ça. Ils ont roulé toute la matinée pour trouver un magasin spécialisé dans le sport et les équipements de randonnée. Quand ils ont enfin pu se garer, le soleil tapait déjà fort. Un vendeur les a guidés à travers les rayons avec sérieux et enthousiasme. Il a répété plusieurs fois que leur expédition allait être sans sas. Maintenant, ils sont à la caisse et ils en ont pour une petite fortune de matériel. « J'ai pas mal d'argent, tu sais », dit Johan alors qu'ils sortent de la boutique, les bras chargés de sacs. « T'en fais pas. J'avais ce logement de fonction et j'ai des économies. Eh ben moi, je dois vider mon compte en banque et mon livret A avant de mourir, alors... » Il ne s'attend pas à la voir sourire. Pourtant, c'est ce qu'elle fait. Elle déclare même « D'accord, mais laisse-moi payer la prochaine fois. » Il se dirige vers le camping-car. Johan s'arrête soudain. « Tu peux m'attendre ? J'en ai pour 10 minutes, pas plus. » Elle lui désigne le centre commercial qui jouxte le magasin de sport. « T'as des courses à faire ?» demande-t-il surpris. Ils ont acheté de la nourriture déshydratée dans le magasin de sport, ainsi que des barres protéinées. Il ne devrait manquer de rien. « Oui, une ou deux bricoles, je reviens vite. » Il songe qu'il s'agit sans doute de trucs de filles. Il a presque oublié comment c'était le quotidien avec une fille. « Il y a une boîte aux lettres dans l'entrée, tu veux que je poste ta lettre ?» Il hoche la tête. L'enveloppe est prête, il a noté l'adresse ce matin et collé un timbre. Il cherche le courrier dans son sac à dos et le lui tend. « À tout de suite !» Il grimpe dans le camping-car et ouvre la grande carte des Pyrénées. Ils vont prendre le chemin des muletiers, comme Chloé l'a conseillé. Il part d'Artigues. Ils stationneront de nouveau le camping-car sur le parking près du ruisseau. C'est un endroit assez tranquille, il ne devrait pas y avoir de problème de vol. Du bout des doigts, il suit le sentier qu'ils emprunteront à pied. Il devrait le surligner au feutre, si jamais il a un trou de mémoire. Il songe qu'il devrait systématiquement informer Johan des itinéraires qu'il compte emprunter désormais. Ça lui ferait une seconde sécurité si sa mémoire déraille. Il a replié la carte et attaché sa ceinture de sécurité quand Johan revient. Elle porte un petit sac transparent dans lequel il croit apercevoir un livre. Il n'ose pas la questionner sur ce qu'elle a acheté, mais elle voit bien qu'il jette des regards intrigués à son sac. Alors elle en extirpe le contenu.
« Qu'est-ce que c'est ?»
Mais il comprend avant même qu'elle ne réponde. Il s'agit de deux petits carnets à la reliure noire.
« Moi aussi, je vais en écrire un, » dit-elle.
Elle sort deux beaux stylos du sac, des stylos à billes en résine noire et à la pointe argentée.
Oh ! Il ne sait que dire d'autre.
Johan remet les carnets et les stylos dans le sachet plastique qu'elle dépose à ses pieds, puis elle boucle sa ceinture.
On va se charger avec ça en randonnée ?
Elle a un haussement d'épaule. Il se racle la gorge et ajoute d'un ton plus aimable :
Merci pour le carnet.
Mais elle a déjà le nez collé contre la vitre et le regard au loin. Il marche depuis près de 2 heures. Il a perdu la notion du temps. Il se demande si sa mémoire n'a pas déraillé un court instant, car il se rappelle le retour en camping-car au parking près du ruisseau, la préparation des sacs de randonnée, cela pesait sacrément lourd, il s'est demandé comment Johan allait porter le sien, puis le repas rapidement avalé, un plat de pâtes. Après ça, ils se sont rendus à pied jusqu'au virage indiqué sur le guide de randonnée, virage qui constitue le départ de la randonnée. Un panneau jaune indiquait « Pic du Midi par le Sentier des Muletiers, 2872 mètres, 4h30 ». Ils ont pris le sentier qui montait le long de la cascade d'Arize. Un quart d'heure plus tard, ils étaient aux cabanes de Tramzeg, de vieilles bicoques en pierre. De là, on apercevait déjà le Pic du Midi de Bigorre. Johan s'est émerveillé. Après ça, il ne sait plus ce qui s'est passé. Ils ont suivi le sentier et les panneaux. Lui marchait devant, se protégeant du soleil qui tapait, en mettant sa main en visière. Elle restait à l'arrière. Il lui a demandé si c'était parce que son sac était lourd, mais elle a répondu que non, qu'elle aimait bien marcher seule. Elle avait son chapeau noir et ses bâtons de randonnée que le vendeur avait réussi à lui vendre. Émile n'en avait pas voulu. Il a perdu le fil après les cabanes de Tramzeg. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il marche depuis 2 heures, qu'il fait une chaleur de dingue et qu'il y a des vaches autour d'eux qui se reposent dans l'herbe. Il s'assoit sur un rocher pour attendre Johan.
On fait une pause ?
Je meurs de soif.
Ils sortent les gourdes. Johan a le front trempé de sueur. Elle porte encore un bermuda noir et un de ses éternels débardeurs noirs. Il a failli lui dire tout à l'heure que ça n'était pas une bonne idée, le noir, mais il s'est ravisé. Elle a ses chaussures de randonnée toutes neuves aux pieds. Ils boivent longuement par petites gorgées, s'épongent le front. Ils reprennent leur souffle tout doucement.
« C'est quoi là-bas ? »
demande Johan.
Elle désigne une cabane en pierre dont il ne reste que des ruines. Émile hausse les épaules. Rien n'est écrit à ce propos dans son guide.
« C'est joli, » déclare-t-elle.
Ils ont encore plus de 2 heures de marche et il est déjà 17 heures. Ils songent qu'ils ne sont pas partis suffisamment tôt. Johan est bavarde aujourd'hui. Elle pose une nouvelle question en faisant rouler des cailloux du bout de sa chaussure.
Pourquoi on appelle ça le chemin des muletiers ?
Il range sa gourde dans son sac à dos avant de répondre.
Il y a un observatoire astronomique tout là-haut, sur le pic du Midi. Au moment de sa construction, les fondateurs faisaient acheminer les vivres et les matériaux de construction par ce sentier, celui qu'on prend aujourd'hui. Les hommes qui portaient étaient payés au poids. Ils avaient jusqu'à 40 kilos sur le dos.
Le visage de Johan ne laisse transparaître qu'un soupçon d'étonnement, un faible soubresaut au niveau de son sourcil gauche.
Ils faisaient le chemin dans la neige en plein hiver. Le trajet pouvait durer jusqu'à 12 heures. Pas mal sont morts dans des avalanches.
Il se relève avec des mouvements lents et une grimace de douleur. Il commence à avoir des ampoules aux pieds.
On y retourne ?
Oui.
Il a l'impression qu'il croise des gens sur leur ascension, mais il n'en est pas sûr car il est plongé dans ses pensées. Il croit comprendre ce que veut dire Johan quand elle déclare qu'elle préfère marcher seule, et même quand elle s'isole pour méditer dans un champ. On se retrouve plongé en soi. On n'est plus vraiment conscient de ce qui se passe autour. L'effort physique permet au mental de totalement lâcher prise. Les pensées se succèdent en tourbillon, mais un tourbillon calme et serein. À certains moments, on est à peine conscient qu'on pense. Il y a des souvenirs qui remontent tout doucement, qui s'imposent sans provoquer d'émotions douloureuses. On les regarde avec une certaine distance et avec bienveillance. Il y a ce coup de téléphone qui revient. Cet appel nocturne qu'il avait passé à Laura alors qu'elle venait juste de rentrer chez sa mère, alors qu'elle n'avait pas encore déménagé ses affaires de leur appartement. Il était 2 heures du matin quand il l'avait appelée. Elle semblait irritée mais faisait des efforts pour rester polie.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Elle avait eu la gentillesse de ne pas ajouter « encore ». Pourquoi il l'appelait ? Pourquoi il ne lui fichait pas la paix ? Il voulait des explications. Et puis, il ne voulait pas de ces explications. Elle ne lui convenait jamais. Il l'avait traitée de menteuse, de sale menteuse même, à cause de la pilule. Elle avait fini par exploser.
Oh, « le bébé, mais tu remets toujours tout sur le bébé !» Oui, j'en voulais, et toi, non. Oui, on s'est loupé dans le timing. Mais c'est pas juste ça, Émile.
Il lui avait sauté à la gorge.
Ah, c'est pas juste ça. Il y avait une autre raison, on y vient. Il y avait quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, j'en suis sûr.
Un long blanc avait suivi, puis elle avait parlé d'une voix parfaitement claire et détachée, comme si plus rien de tout cela ne la touchait plus.
C'est pas juste le projet bébé qui a merdé, c'est toi, tout entier.
Ah, c'est le moment où tu vas être désagréable.
Non mais tu t'es vu, Émile. Tu es là, toujours là, t'avances pas. T'es le même qu'à la fac, à tout prendre à la légère. T'as pas bougé d'un millimètre. Tu attends que les choses arrivent. T'as pas envie de grandir, d'évoluer. Tu te contentes d'un rien. Ta petite existence, Renaud, tes potes.
Il avait beuglé dans le combiné.
Et toi, tu vaux mieux ? Tes soirées minables avec tes copines idiotes !
Elle ne l'avait même pas entendu. Elle avait poursuivi.
Si je t'avais pas trouvé ce travail chez mon ami, tu serais encore là à attendre qu'un poste te tombe du ciel !
Quelle riche idée, hein ? Un job de merde dans une start-up de merde !
Oui, c'est exactement ça. Un job de merde dans une start-up de merde pour un mec de merde qui reste dans sa vie de merde.
Il avait cru s'étrangler et avait hurlé de toutes ses forces.
« Va te faire voir !»«
Non mais t'as raison, c'est tout toi ça. Ce job t'emmerde et pourtant tu restes. Tu fais rien pour changer les choses. Tu te contentes de ta petite existence sans voir plus loin que le bout de ton nez. »
Il lui avait raccroché au nez pour ne pas l'insulter. Après ça, elle avait déclaré qu'il n'y avait plus lieu de s'expliquer. Il y avait eu suffisamment d'explications. Il l'avait revue une seule fois, le jour du déménagement, avant qu'elle ne file chez le coiffeur. Elle avait semblé soulagée de le laisser derrière.
« C'est l'observatoire ?»«
Hein ?» La petite voix essoufflée de Joanne répète.
« C'est l'observatoire ?»
Elle pointe du doigt les infrastructures en ferraille qu'elle aperçoit là-haut.
« Ouais, ça doit être ça. »
Il la laisse le rattraper. Elle est essoufflée, mais elle tient bon avec son énorme sac sur le dos.
« T'as raison, c'est sympa de marcher seule. »
confie-t-il lorsqu'elle le rejoint.
« Ouais. »
« C'est... ça fait remonter plein de choses. »
Il se demande si c'est pareil pour elle, si elle entend la voix de Léon quand elle marche. Il la voit hocher la tête et lever son visage vers lui. Elle prononce cette phrase étrange d'une voix étrange.
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.
Il fronce les sourcils, se sentant un peu idiot.
Pardon ?
Elle relève son chapeau qui lui tombe sur le front.
C'est de Proust.
Il se sent bête. Elle doit lire beaucoup plus que lui.
Tu veux que je te la répète ?
Elle a comme un demi-sourire sur les lèvres. Il hoche la tête.
Ouais, vas-y.
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.
Ce qu'il veut dire, c'est que...
Il hésite. Il a peur de passer encore pour un idiot.
Ce qui veut dire que ce voyage qu'on fait, toi et moi, c'est avant tout un voyage intérieur, une introspection.
Elle marche d'un pas vif maintenant. Elle regarde droit devant elle.
Ouais, lâche-t-il.
Il a la bouche un peu sèche.
Pour voir les choses avec un nouveau regard.
Il cherche son approbation. Mais elle conserve un visage inexpressif quand elle parle.
Comme tu l'as dit, il y a toutes ces choses qui remontent, mais là, on les voit différemment, avec de nouveaux yeux.
Elle vient de lui faire une confidence. Elle sait pourquoi il marche, et elle marche pour la même raison. Elle vient chercher des réponses, des explications, sans doute par rapport à Léon. Elle espère revenir auprès de lui avec un regard neuf. C'est ce qu'elle vient de lui confier à demi-mot. Enfin, il croit. Elle se tourne de nouveau vers lui. Elle a la respiration saccadée à cause de l'effort. Son chapeau est retombé sur son front. Il n'aperçoit que le bas de son visage.
« Il y en a une autre que j'aime beaucoup. »
Il hoche la tête pour l'encourager à continuer.
« Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. » C'est de Confucius.
Il voit sa bouche esquisser un sourire. « Bon Dieu, ça doit être le troisième en 3 jours. » Pour la première fois, il croit comprendre ce qui a pu rendre Léon totalement dingue de cette drôle de fille. Il croit le discerner, le toucher du bout de ses doigts, mais c'est encore fragile et volatile. C'est assez flou. Elle redresse son chapeau et ajoute, avec ce qu'il perçoit comme de la malice,
« Cela pourrait être la première phrase de ton carnet ?»
Il ne peut s'empêcher de lui sourire avec une pointe de tendresse.
« T'as raison, ça ferait une belle première phrase. »
Les panoramas sont à couper le souffle. Ils sont bien forcés de sortir de leurs méditations respectives. Le guide à la main, Émile désigne à Joanne le pic de Néouvielle qu'on aperçoit au loin, le col de Sancourt, qu'ils ont passé quelques minutes plus tôt, le lac de Loncette, plus bas, d'un beau bleu sombre. Ils arrivent bientôt à une vieille et grande bicoque de pierre, aux volets rouges marronnasses et aux toits étranges en arrondi. Un panneau indique « L'hôtellerie des Laquais ». Un couple s'est arrêté non loin d'eux et l'homme explique à sa compagne.
« Ça, tu vois, c'était un refuge pour les travailleurs qui faisaient les allers-retours avec les matériaux pour installer l'observatoire. »«
Mais il est abandonné, non ?»«
Oui, depuis les années 2000. Le téléphérique a été construit et ce chemin a été abandonné. Le refuge a fermé. » Mais il y a un projet de réhabilitation en cours. Ils veulent le restaurer.
Ah ! Le couple repart tranquillement au rythme des bâtons de randonnée qui martèlent le sol. Johan a les yeux plissés.
On y retourne ? Demande Émile.
Le sommet est à 400 mètres maintenant. On y sera vite.
Mais Johan ne bouge pas. Elle fait quelques pas en direction du bâtiment abandonné.
On dirait que la porte est ouverte.
Elle a piqué sa curiosité. Il la suit, plissant les yeux à son tour. Effectivement, la porte est entrouverte, laissant passer à l'intérieur des brindilles portées par le vent.
Tu crois qu'on...
Il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Johan pousse déjà la porte qui s'ouvre sans difficulté. Elle passe sa tête par l'entrebâillement. Elle s'y engouffre et Émile la suit. Ce qu'il perçoit d'abord, c'est la fraîcheur du lieu et l'odeur légère de renfermé et de poussière. Ensuite, il distingue ce qui l'entoure dans la semi-obscurité. Face à eux se dresse un comptoir sur lequel traîne encore un tarif de glace. Les murs sont décrépits, le sol est jonché de gravats. Cependant, le lieu doit être encore occupé de temps en temps par des randonneurs, car des traces de pas mènent aux autres pièces.
« On va voir ?»
demande Johan dans un murmure. Il acquiesce. Il a toujours rêvé de se retrouver dans une bâtisse abandonnée. Il pourrait presque sentir l'excitation mêlée d'appréhension au creux de son estomac, comme quand il était enfant. Les gravats crissent sous leurs pas. Johan pose un pied sur l'escalier de bois, au bout de l'ancienne réception.
On commence par visiter le haut ?
Elle monte une marche, puis une deuxième. Le bois grince, mais le bruit n'est pas trop menaçant.
Ce doit être les chambres ?
Il la suit dans les escaliers. Il se retrouve dans un long couloir sombre un peu inquiétant. Des portes fermées s'alignent de part et d'autre du corridor. Johan en pousse une. Ici aussi, ça sent le renfermé et l'humidité. C'est un ancien dortoir. Les armatures en fer des lits sont toujours là, un peu rouillées. Sur l'une d'elles trône encore un matelas jauni. Sur le rebord d'une fenêtre, un oreiller a été abandonné, ainsi qu'une bouteille de vin rouge.
Je crois que des gens viennent encore ici de temps en temps.
Oui.
On pourrait y passer la nuit.
Johan n'a pas l'air vraiment emballé par l'idée.
Fait-elle.
Je sais pas.
Il parcourt les autres pièces. Ce sont tous des dortoirs décrépits. Dans l'un d'eux traîne encore une vieille chaussure de randonnée. Les rares matelas restants puent l'humidité. Ils redescendent. En bas, dans l'ancienne cuisine, une gazinière survit au temps, la porte du four béante. Un réchaud à gaz a été abandonné sur les plaques. Une table bancale accueille encore une vieille casserole et des fourchettes. Il se retrouve bientôt dans le hall, à côté du comptoir. Johan a un froncement de nez.
Je préfère dormir à l'air libre, sous la tente.
Ça doit définitivement être son truc quand elle n'est pas emballée, ce froncement de nez.
Pas de souci.
Dehors, il se retrouve agressé par le soleil et la chaleur.
Allez, on y est presque.
Ils reprennent leur chemin. Le sommet est proche et pourtant, il semble ne jamais arriver. Le col de Laquais leur offre une magnifique vue sur la plaine et la ville de Tarbes. La piste s'arrête ici. Ils doivent continuer dans la pierraille. De ce côté-ci, on ne voit même plus l'observatoire, ou seulement par moment. Ils croisent les rails du monte-charge de l'époque. Ils doivent parfois les enjamber. La pente est drue. Johan est obligé de s'arrêter plusieurs fois pour reprendre son souffle, mais elle ne se plaint pas. Elle ne dit rien. Enfin, ils posent un pied sur l'esplanade en béton. L'observatoire est là, devant eux, avec ses coupoles. Ils ne sont pas seuls. Loin de là. Ça grouille. Des centaines de randonneurs sont là, assis aux terrasses des restaurants ou debout autour des tables d'orientation, contre les rambardes, photographiant les sommets. D'autres arrivent encore en masse, descendant des télécabines. Des panneaux indiquent l'observatoire astronomique, les coupoles, le musée, l'hôtel, la station de radiodiffusion. Émile se sent un peu étourdi par tout ce mouvement, toute cette foule.
« Tu veux visiter ces trucs ?» demande-t-il à Johan.
Il est soulagé de l'avoir secoué la tête.
« Non, on peut juste profiter de la vue. »
Il s'approche des rambardes. Émile sort son guide pour pouvoir reconnaître les différents sommets qui s'étendent devant eux. Des bouts de phrases leur parviennent de ça de là.
L'observatoire le plus haut d'Europe. On est à 2877 mètres. Là-bas, le Mont Perdu.
Ils se perdent dans leur contemplation. Ils font le tour de l'observatoire pour s'imprégner de chaque parcelle de ce panorama. Ils sont épuisés. Ils finissent par s'asseoir à même le sol sur la terrasse de Bayeux face au pic de Néouvielle.
Il faudra redescendre. On ne peut pas passer la nuit ici. Ils vont fermer la terrasse.
Ça fait presque une heure qu'ils sont là-haut. Le soleil décline. Les cris des touristes se font de plus en plus diffus. Il va falloir sérieusement qu'ils installent leur campement pour la nuit. Cependant, aucun des deux ne trouve la force de se lever.
Tu veux que je prenne ton sac ?
Johan secoue la tête. Émile prend son courage à deux mains et se relève avec des gestes lents et une grimace de douleur. Tout son corps hurle.
On va redescendre un peu pour dormir ?
Demande Johan en le regardant se mettre debout.
Ouais, on trouvera un endroit plat pour planter la tente.
Il lui tend la main pour l'aider à se relever. Elle soupire et obtempère.
Il y avait ces ruines d'une cabane en pierre. Tu te rappelles ?
Ouais, quand on s'est arrêté pour boire.
Elle acquiesce.
On serait bien pour dormir, pour planter la tente.
Au milieu des ruines ?
Ouais, c'était à l'abri du vent.
Il réfléchit, essaie de se souvenir de la distance qu'ils ont parcourue depuis ces ruines.
C'était à plus d'une heure d'ici, presque deux.
Ah !
On peut le tenter si t'as encore quelques forces.
Elle hésite. C'est vrai qu'elles étaient belles, ces ruines perdues au milieu de la montagne.
Tu sais quoi ? Dit-il avec un sursaut d'énergie. On va le faire. On va s'arrêter remplir nos gourdes à l'hôtellerie abandonnée. On mangera quelques abricots secs. Ça nous redonnera de l'énergie pour aller jusqu'aux ruines.
Elle a l'air heureuse, même si elle ne sourit pas. Ça se voit à la façon dont elle hoche la tête et dont elle accélère le pas. Ils sont rapidement à l'hôtellerie des Laquais. Par chance, le réseau d'eau est encore fonctionnel et ils peuvent remplir leurs gourdes. Ils mangent leurs abricots secs sur le perron du refuge sans s'asseoir, de peur de ne plus pouvoir se relever. Au fur et à mesure que le jour décline, ils pressent davantage le pas. Ils ne croisent plus grand monde. L'heure est tardive, même pour des randonneurs aguerris. Les membres se font lourds, les esprits s'évadent.